Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info.
Ah,
ah. Mais je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, contre le colis et ton fléchis. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'un mille infos.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez pas. Canu Info du vendredi.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info. Il est à peu près 19h. Et donc aujourd'hui, dans le Canu Info, de quoi on va vous parler. Donc tout d'abord, on vous passera un reportage sur les événements de la semaine de solidarité avec le collectif Jamais sans toi, donc qui soutient les élèves des écoles lyonnaises qui n'ont pas de logement.
Et puis on passera à la rubrique nationale où on ira parler de Jean-Michel Blanquer qui nous promet 2 ans de vacances grâce au chômage. En fait, on regardera les statistiques et c'est pas si sûr que ce soit 2 ans de vacances.
Voilà, ensuite on vous passera 2 reportages, si je ne me trompe pas, sur ce qui s'est passé donc en 1961, le 17 octobre. Donc l'intitulé c'est « Ici on noie les Algériens ». Donc ça va être des témoignages un peu recomposés de cette période-là, de ce qui s'est passé à ce moment-là à Paris.
Et puis on passera à la rubrique internationale où on vous parlera d'abord de la disparition des insectes, puisque en 30 ans, 80% des insectes auraient disparu en Europe.
Et voilà, et dans l'international, on continue sur la pollution et on vous dira que la pollution est responsable de 9 millions de morts dans le monde et par an en plus.
Et ambiance pollution toujours, vous avez reconnu notre spécialiste du gaz de schiste de retour et il va vous parler du gouvernement algérien. On parle beaucoup d'Algérie ce soir, on parle beaucoup de pollution et le gouvernement algérien revient sur sa décision de ne pas exploiter le gaz de schiste.
Voilà, et ensuite on vous parlera, donc c'est le retour aussi des fameuses brèves du Kurdistan.
Tout à fait, les brèves du Kurdistan font leur retour, ce qui ne fait pas son retour par contre, c'est le traditionnel agenda. On est le 20 octobre, il est 19h04 à l'antenne du 102.2 à Lyon, et c'est parti pour le Canu Info.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous voyez, la précarité, elle n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. En chantant résiste.
Alors, le collectif Jamais sans toi, qui fédère les comités de soutien aux enfants scolarisés sans abri de la métropole lyonnaise, tire la sonnette d'alarme. En cette rentrée scolaire, à quelques semaines de la mise en œuvre du dispositif hivernal et de la célébration du 28e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant, le collectif recense déjà plus de 130 enfants sans hébergement. Le collectif a organisé une semaine de solidarité en soutien aux familles sans hébergement. Dans plusieurs écoles, il y a eu des goûters ou des repas solidaires pour récolter de l'argent. Et c'est surtout l'occasion de réaffirmer le caractère inconditionnel du droit à l'hébergement d'urgence consacré par la loi et de rappeler par la même occasion au président de la République le vœu qu'il formait au mois de juillet que d'ici la fin de l'année, il n'y ait plus personne dans les rues, dans les bois. Et donc du coup, là on va vous passer un petit reportage, puisque le Canu Info du vendredi est allé dans deux écoles pour discuter avec des membres du collectif de soutien.
C'est parti. À l'école Jean-Pierre Veillet, et en fait bah, là on est les, bah, c'est le collectif des parents d'élèves Jean-Pierre Veillet qui organise ce goûter solidaire. C'est la deuxième année que nous organisons des goûters solidaires. Ça fait 3 ans en fait que nous avons entre guillemets découvert qu'il y avait beaucoup de familles sans toit parmi nous et qui avaient besoin et de familles démunies qui ont des toits mais qui sont très très démunies, mais surtout les familles sans toit. Bon, cette année il y en a quand même moins que l'année dernière. L'année dernière on en était quand même une vingtaine de familles sans toit.
Ah oui.
Ouais. Tout au long de l'année. Et bah, en fait, on est juste derrière Forum Réfugiés. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de familles qui sont demandeurs d'asile, qui sont dirigées vers l'école Jean-Pierre Veillet, entre autres. Hein, mais il y a d'autres écoles du 7e aussi qui sont sollicitées, comme Gilbert Dru, Jean Massé. Et donc, on a décidé, en fait, qu'on ne pouvait pas rester en fait sans rien faire. Et voilà, c'était quand même... L'année dernière, c'était dramatique quand même. On s'est rapproché d'autres écoles, donc Gilbert Dron notamment, qui nous a fait découvrir Jamais sans toi. Bonjour. L'association, donc on fait partie en fait de cette association, on est en lien avec Jamais sans toi, avec École Logement, donc et on essaye d'organiser en fait d'organiser en lien avec Jamais sans toi des manifestations comme le goûter solidaire. On a des personnes, des parents d'élèves qui vont représenter aussi à la préfecture des parents sans toit, des familles sans toit. On fait d'autres choses aussi, on essaye de les aider au niveau administratif, de les assister, de les accompagner, d'être en appui aussi avec l'assistante sociale de l'école. Quand on en a une, actuellement nous n'en avons pas. Donc nous avons demandé à la mairie, mais nous n'avons toujours pas de réponse. Donc nous attendons. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin, cette école a vraiment, a priori depuis très longtemps, besoin en fait de soutien à ce niveau-là. Donc cette année, on n'a pas beaucoup, on va dire, on est content quelque part, on n'a pas beaucoup de familles sans toit, mais quoi qu'il arrive, il y en a. Et puis on sait que dans l'année, il y a des personnes qui arrivent de toute façon régulièrement. Et bien, il y a des personnes qui sont hébergées actuellement, mais qui risquent de perdre leur hébergement parce que en fait, ils vont être déboutés du droit d'asile. Et voilà. Donc bon, nous, c'est vraiment, là pour aider des parents qu'on côtoie tous les jours, des enfants qui sont des camarades de classe de nos enfants. Et voilà, c'est le but. Donc voilà, donc nous tout ce qu'on essaye de faire c'est de se goûter, c'est au cas où. Donc on a réussi quand même à faire héberger la seule famille sans toit que nous avions vraiment sans toit, qui était vraiment dehors, chez un parent. Le bénéfice du goûter, ben, une partie va venir pour soutenir cette famille à payer des frais, on va dire, de la vie quotidienne. Mais voilà, c'est le but, c'est de, si jamais une famille se retrouve dehors, comme on a eu là cet été, on a pu leur payer des nuits d'hôtel. Et après, en association avec d'autres associations, donc en fait on se relaye, donc on essaie de renflouer en fait la caisse et de pouvoir payer des nuits d'hôtel.
Bonjour.
On se trouve devant l'école Gilbert Dru.
Ouais.
Et il y a eu un café solidaire en soutien aux familles qui sont à la rue.
Tout à fait. Et un café et un sit-in. Donc on s'est installé devant l'école avec des duvets, des couvertures pour faire un sit-in, faire une action en plus du café, solidaire, faire une action pour montrer à la presse, aux parents et au pouvoir public essentiellement qu'il y a encore des enfants, il y a des enfants qui dorment à la rue, on peut dire encore parce que ça revient tous les ans, et que depuis le début de l'année il y a des enfants dans notre école qui dorment à la rue. On est quand même mi-octobre un peu passé. ces enfants devraient être logés par la préfecture. Enfin, il y a pas mal de choses sur l'hébergement d'urgence qui sont inscrites dans la loi, dans le droit de l'enfant aussi. L'enfant est prioritaire sur l'hébergement d'urgence. Et là, des enfants de l'école dorment toujours dehors. La préfecture, l'État ne remplit pas son devoir d'assistance et d'hébergement.
Et vous savez combien il y a d'enfants, du coup ? Enfin, combien de familles
qui... Alors, à l'école, il y a 4 familles qui sont à la rue.
D'accord.
Dans notre école. Après, il y a beaucoup d'écoles sur Lyon. Il y a un décompte qui a commencé à être fait par le collectif Jamais Sans Toi pour essayer un petit peu de recenser sur Lyon. Donc, ce décompte est loin d'être définitif parce qu'il y a une trentaine d'écoles qui ont répondu sur Lyon et alentour. Mm-hmm. Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin. Voilà, après, je ne sais pas exactement quelles communes ont répondu. Et là, on en est à au moins 130 enfants.
Oui.
Qu'une trentaine d'écoles. Donc voilà, vous imaginez qu'il y a des écoles qui n'ont pas répondu, qui ont des enfants dehors.
Et vous, ça fait, enfin vous, en tout cas l'école Gilles Berdru, ouais. Ça fait des années qu'elle milite et qu'elle se mobilise pour cette question-là.
Alors, tout à fait. Quand moi je suis arrivée dans l'école, mes enfants sont entrés en maternelle en 2010, il y avait une grosse mobilisation pour la régularisation d'un papa. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'au début, les actions se faisaient essentiellement voilà, autour de régularisation, de non-expulsion, de choses comme ça. Et depuis quelques années, c'est parce que les enfants, en plus que les parents soient dans des situations plus ou moins complexes par rapport au titre, à leur droit à rester sur le territoire, ils sont en plus à la rue.
Du coup, pour le moment, là, c'est juste un café pour récolter de l'argent, pour payer des nuits d'hôtel ou pour d'autres
choses ? Alors, entre autres, donc là c'est un café, on fait régulièrement des goûters solidaires. Ou pareil, on récolte de l'argent. Il y a aussi une cagnotte solidaire qui est en ligne. Donc cet argent sert à payer des nuits d'hôtel, alors acheter aussi de la nourriture. Parce que parfois les bons qu'ils peuvent avoir par l'aide sociale ne suffisent pas à nourrir tout le monde correctement. C'est aussi pour des démarches. Quand il faut aller à Paris pour poser une demande à l'OFPRA ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça sert à ça, ça sert pour les démarches, ça sert pour l'hébergement, pour, je ne sais pas, si un enfant a besoin d'une paire de baskets, bah, on peut aussi, voilà, ça sert à soutenir ses familles de manière assez large.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et la bêtise n'a pas de limite. Et d'ailleurs, dimanche dernier, le 15 octobre, Emmanuel Macron était interviewé par TF1. Il a notamment déclaré, vous avez sans doute entendu ça, qu'il voulait que l'on célèbre, je cite, « ceux qui réussissent parce que si on commence à tirer des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole ». Ouais. Au Canu Info, vous parle régulièrement de ce mépris de classe qui est comme une seconde nature pour le président de la République. Ici, il s'agissait de valoriser la théorie du ruissellement, qui est une théorie économique selon laquelle favoriser les riches serait bénéfique aux pauvres, qui verraient la richesse des premiers ruisseler vers eux. Celle-ci est la beau être fausse, le président y croit dur comme fer. C'est d'ailleurs pas le seul à croire n'importe quoi parmi nos dirigeants, ni à pratiquer le mépris de classe. Lundi dernier, c'est Christophe Castaner, donc qui est le porte-parole du gouvernement, qui s'est à nouveau illustré au micro de BFM TV. Il intervenait au sujet de l'annonce faite par le président de l'extension des allocations chômage aux personnes démissionnant de leur emploi.
L'universalité de l'allocation chômage, qui doit profiter à celles et ceux qui n'ont pas droit, un agriculteur, un artisan, un commerçant, implique aussi des droits et de devoirs. Et on l'a élargi à la question des démissionnaires, mais encore avec cette idée de droits et de devoirs. C'est une forme de liberté, mais de liberté pour aller quelque chose. La liberté, c'est pas vers quelque chose. La liberté, c'est pas de se dire que finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances.
Donc... Alors, outre le mépris de classe dont elle témoigne, cette déclaration sur le fait de partir 2 ans en vacances grâce aux déclarations, aux allocations chômage, pardon, révèle une méconnaissance totale de ce qu'être sans emploi implique aujourd'hui réellement. Ne serait-ce que dans ce studio, on sait tous les deux, puisqu'on n'est que deux ce soir, que dealer avec Pôle emploi n'est pas si simple et que s'il s'agit de vacances, elles sont quand même assorties de contrôles réguliers et de menaces de radiation au moindre rendez-vous oublié ou de retard dans son actualisation. Le centre d'observation de la société s'est d'ailleurs penché sur la situation réelle des chômeurs et on voit bien dans leurs statistiques que les vacances, tout frais payés, on en est bien loin. Alors d'après eux, un tiers des chômeurs ne touche aucune indemnité, la moitié d'entre eux ne reçoit pas plus de 500 euros par mois et les trois quarts moins du SMIC. Seuls 6% perçoivent plus de 1500 euros. Donc en fait, le régime français d'indemnisation des demandeurs d'emploi est loin d'être, disons, très généreux et de désinciter, c'est un terme qu'utilisent nos politiciens, à la reprise d'un travail, comme le sous-entendent notamment les droitards comme Castaner ou notre local de l'étape, Laurent Wauquiez. Selon les chiffres de l'UNEDIC, les chômeurs reçoivent en moyenne 1100 euros net par mois d'indemnité, montant du niveau du SMIC et équivalent à 71% du salaire net de référence. Ce chiffre est trompeur en fait, car il ne porte que sur les chômeurs indemnisés dans le cadre du régime général de l'assurance chômage. Pour comprendre combien perçoivent les chômeurs, il faut en fait élargir le champ de la mesure. Parce qu'aux 2,1 millions de personnes qui sont indemnisées par le régime général, on doit ajouter 485 000 chômeurs en fin de droit, qui touchent au mieux l'allocation de solidarité spécifique, souvent pas grand-chose, donc c'est la SS. Il faut enfin compléter par le nombre de demandeurs qui ne touchent tout à fait rien, par exemple des jeunes qui n'ont pas cotisé. Donc en fait, sur les 5,5 millions de demandeurs d'emploi au total en juin dernier en France, seule la moitié percevait une allocation. Alors paye tes vacances quand même. On imagine qu'Emmanuel Macron et Christophe Castaner ont dû applaudir quand Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, a demandé cette semaine à ce qu'il y ait un contrôle quotidien des chômeurs. Les riches perçoivent vraiment ceux qui ne bossent pas comme des indésirables, juste bons à faire pression sur ceux qui travaillent en leur disant « T'as vu tous ceux qui poussent derrière ?» Alors sois sage et bosse comme un chien. Alors pour lutter contre ça, il est sans doute temps qu'on prenne tous des années de vacances et bien plus que 2 ans, ce serait sympa. Et pour reprendre l'expression de Macron, on aura toute la force nécessaire pour entraîner les premiers de cordée au fond du ravin. C'est un souhait très personnel. Sur ce, on va passer à une autre actualité qui n'est pas vraiment une actualité, d'ailleurs qui est plutôt la commémoration d'un élément du passé. On va parler du soir du 17 octobre 1961, un soir lors duquel des dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes vivant à Paris sont sortis de leur logement pour braver le couvre-feu qu'on leur imposait alors pour dénoncer le fait que ce qui se passait en Algérie. Et ce soir-là, la police a tapé dans le tas, on a tué beaucoup, certains ont été jetés à la Seine et des milliers ont été déportés en car et enfermés pendant plusieurs jours à Vincennes. Alors là, on va vous passer des extraits d'un web documentaire réalisé à ce sujet par quelqu'un qui s'appelle Raspou. On vous donnera les références à la fin. Et on va écouter un premier extrait. Donc c'est des acteurs qui jouent. En fait, ce sont des témoignages recomposés. Le premier extrait qu'on va écouter, il s'agit de celui de Lucien, qui était un appelé du contingent. C'est quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie avec l'armée française, qui est revenu horrifié par ce qu'il a vu et qui témoigne de cette manifestation du 17 octobre 1961, des attentats de l'OS et de la fusillade du métro de Charonne en 1962. On écoute tout de suite ce qu'il nous raconte.
J'ai 24 ans. Je suis né à Paris en 1938. Comme tout le monde, j'ai été appelé en Algérie. Vous savez, quand vous rentrez ici, personne ne vous comprend. On reprend pas la vie normale. On reprend pas la vie normale quand on a vu les tortures, les massacres, les copains devenir fous. Vous êtes tout seul là-bas. Encore au début, ça allait, j'étais avec mon pote, un autre Parisien. Mais il supportait pas, lui. On a participé au planchal. On ratissait le Djebel. Un jour, près de Tala Amara, on a reçu l'ordre d'interroger tout un village. Pendant l'intervention, on entend des cris de femmes. Alors avec Robert, on s'approche. Il y avait un attroupement de soldats autour d'une jeune fille. Elle venait d'être torturée. Son visage était meurtri. Elle saignait de la lèvre. Le sergent s'approche. Il commence à lui toucher les seins. Autour, les gars l'encourageaient. « Allez, vas-y, baise-la, baise-la !» La fille résistait. Alors ils l'ont couchée de force sur le lit. Et puis le sergent l'a violée sous nos yeux. Après, ils y sont passés à plusieurs. Et le capitaine qui laissait faire. « Avec ces gens-là, c'est comme ça qu'il faut y aller !» C'était pas la guerre. C'était la folie. Il a pas supporté Robert. Le soir même, il est sorti du cantonnement et il s'est fait sauter la cervelle. C'est à partir de là que ça a été de plus en plus dur. En rentrant, je parlais plus à personne. Il n'y a que seul que je me sentais bien. Je voulais témoigner, raconter ce que faisait l'armée française en Algérie. Je me suis trouvé une petite chambre à Saint-Germain. J'ai repris les notes de mon carnet et j'ai écrit pendant 6 mois. J'ai même trouvé un éditeur après, mais le bouquin, il a été censuré. Il a tout de même un peu circulé sous le manteau. Entre-temps, j'avais fini par dénicher un poste de rédacteur dans une maison d'édition. Plus tard, j'ai rencontré les copains du Comité pour la paix, le groupe Seine-Bussy. On avait pris l'habitude de se retrouver au bar Les Deux Magots pour faire des réunions, rédiger des tracts, dessiner des affiches. Le soir du 17 octobre, je rentrais chez moi en Solex. Il devait être 20h. Je me souviens qu'il pleuvait. Je remontais le boulevard du Palais vers Saint-Michel. J'ai croisé quelques agents de police devant le palais de justice, mais rien d'anormal. Un peu plus loin, à la hauteur du pont, il y avait un cortège d'Algériens. Il devait être 200. La plupart étaient jeunes. Il y avait des femmes aussi. Tout le monde était bien sapé. Ils marchaient, silencieux, la tête haute. Pas un cri, pas un drapeau, pas une pancarte. J'ai garé mon Solex à l'angle du quai des Orfèvres pour regarder passer le cortège. Et tout d'un coup, une escouade de flics jaillit de la préfecture au pas de course. Certains étaient armés de mitraillettes, les autres brandissaient des bidules. De là où j'étais, je voyais la ligne de policiers remonter le quai et charger les manifestants au niveau du boulevard. J'ai entendu un gradé hurler « Allez-y, allez-y dessus !» Les flics m'empêchaient de traverser le pont, alors je suis remonté sur mon Solex pour passer de l'autre côté de la Seine. En arrivant place Saint-Michel, j'ai vu les vitres du café Terminus voler en éclats. Les flics jetaient des guéridons en fonte sur les Algériens. Tout le monde criait. Les gens couraient dans tous les sens. Il y avait des flaques de sang par terre, des vêtements, des affaires abandonnées. Je me rappelle d'un gamin qui hurlait. Il cherchait sa mère. Les Algériens ne se défendaient même pas. Les cars se remplissent, partent en direction de la préfecture de police et reviennent vides 5 minutes plus tard. J'ai vu un Algérien tomber à la Seine. Je sais pas s'il échappait au tabassage ou si on l'a jeté. En remontant le boulevard Saint-Michel, je croise 2 voitures arrêtées. Les conducteurs encourageaient les policiers à la chasse aux Algériens. J'étais sidéré. Tout s'est passé extrêmement vite. Ça m'a rappelé Tala Amara. J'ai pas pu dormir de la nuit. Le lendemain, dans la presse, c'était partout la même chose. Le communiqué officiel affirmait que la police avait dispersé une manifestation à laquelle le FLN avait contraint de participer la grande masse des Algériens. Que des coups de feu avaient été tirés sur les forces de police qui avaient répliqué. Moi, j'ai vu le cortège à Saint-Michel. Les manifestants étaient pacifiques. Quelques jours après la manifestation, j'ai retrouvé les copains du comité au bar Old Navy. On était tous remontés. Beaucoup avaient vu les saloperies des derniers jours. On a parlé d'organiser un défilé, avec un Français pour un Algérien, côte à côte, coude à coude, pour voir si la police foutrait tout le monde à la Seine. Jean-Paul Sartre était d'accord. D'autres gens connus aussi. La date a été arrêtée au 1er novembre, jour de la Toussaint et du début de l'insurrection algérienne. La décision est prise de présenter le projet à toutes les organisations de gauche, au PC en particulier. Eh ben, on s'est fait traiter de provocateurs. Après tout, eux aussi avaient voté les pleins pouvoirs à l'armée. On s'attendait à quoi? Le comité a sorti un tract, on a collé quelques affiches, mais fallait un truc plus spectaculaire. Avec des copains, on a décidé de peindre sur les quais de la Seine une seule phrase. « Ici, on noie les Algériens. Le 1er novembre, donc, 300 étudiants et militants se sont rassemblés place Maubert, autour de la station de métro. Nous sommes venus aujourd'hui pour manifester contre le fascisme et la répression policière, a déclaré Sartre. La manifestation était silencieuse. À 12h15, alors qu'on était en train de se disperser, une bombe de l'OAS a explosé et fait 3 blessés. Le même jour, des militants PSU se sont rassemblés place Clichy.
Il est 16h30 et 300 à 400 jeunes gens défilent place Clichy pour crier paix en Algérie. Ils lancent également des tracts qui s'intitulent 1er novembre 1954, 1er novembre 1961, pour que nos jeunes soldats regagnent leur foyer, pour que cessent les violences, pour que soit signée la paix. Le tract porte une signature « Parti socialiste unifié ».
Dans les mois qui ont suivi, les fascistes de l'OAS ont multiplié les attentats. L'indépendance de l'Algérie était devenue inévitable. De Gaulle négociait officiellement avec le FLN. Mais les ultras ne voulaient rien lâcher. Il y avait des plastiquages toutes les semaines. Je me souviens de la série d'attentats du 22 novembre. Il y en a eu une vingtaine dans la même nuit. Ils ont appelé ça la nuit bleue. Le 7 février, à Boulogne-Billancourt, une petite fille a été défigurée par une bombe de l'OAS qui visait André Malraux. Le lendemain, un collègue me prévient qu'une manifestation interdite par Papon aura lieu le soir même, à 19h, à la Bastille, en réponse aux attentats de la veille. Je sortais du boulot à 19h30. J'ai pris la direction du boulevard Beaumarchais en Solex et je me suis garé au niveau du cirque d'hiver. En remontant le boulevard vers la Bastille, j'ai vu mon collègue qui revenait de la rue Saint-Gilles, tout amoché. Il m'a dit que les policiers avaient chargé. On a continué ensemble vers la mairie du 11e pour rejoindre le cortège qui était là-bas. Les manifestants s'étaient fait prendre en tenaille par les CRS. C'était la même police qu'en octobre qui chargeait, avec la même rage. On a juste eu le temps d'éviter une charge de CRS avant de s'enfuir par la rue de Charonne. J'ai appris pour les morts le lendemain matin. Les manifestants se sont fait pourchasser jusque dans la bouche du métro.
Cette manifestation ne devait pas être prévue par la préfecture de police. Il y a 5 à 600 manifestants. Au moment de la dispersion, d'autres manifestants sont arrivés.
Certains sont tombés. Ceux qui essayaient de rentrer se sont entassés les uns sur les autres. Les flics ont gazé à l'intérieur de la station pendant que d'autres agents leur jetaient des grilles d'arbres dessus. Il y a eu 8 morts. C'était 8 Français. Les obsèques ont été un événement national. Toute la France a apporté son soutien. Personne n'avait parlé des morts algériens. Et tout d'un coup, après Charonne, tout le monde voulait finir la guerre. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle du 17 octobre, les gens me répondent systématiquement « Charonne ». Fallait 8 Français. Fallait 8 morts français pour éclipser les centaines d'Algériens tués en octobre.
Donc on reprend l'antenne sur Radio Canu pour vous rappeler que ce qu'on vous passe là, c'est issu d'un web reportage réalisé par Raspou et que ce sont des témoignages qui ont été reconstitués, ce sont des acteurs et des actrices qui interprètent à partir d'un travail d'enquête et de parcours rencontrés dans les sources relatives à cet événement. Les témoignages s'inscrivent dans le contexte général de la guerre d'Algérie et on vous en passe tout de suite un deuxième, celui de Leïla.
Je m'appelle Leïla, je suis née en 1940 près de Djoudjoura en Grande-Kabylie. Mon père était ouvrier agricole dans une ferme de Français. On vivait dans la ferme, mais on était à l'écart, dans une petite maison. Mon père était très politisé. Il nous disait que le patron, il exploitait les Algériens qui passaient pour la saison. Il disait que je devrais aller à l'école de la ville. Ma mère voulait pas. J'ai fait l'école primaire supérieure. J'ai appris le français et l'histoire de France. Je me suis mariée très tôt, à 15 ans. Je connaissais mon mari, c'était un cousin. Tout a été arrangé sans qu'on prévienne. Et un jour, ma mère m'a dit « Ma fille, tu vas te marier. » Puis j'ai quitté ma maison. La même année, je suis tombée enceinte de Rachid. Il venait de naître quand la guerre a commencé. Dans la région, il y avait beaucoup de moudjahidines. Mon père et deux de mes frères ont pris le maquis. Mon mari, il disait qu'il restait pour moi les enfants. Non, en vrai, ils voulaient pas se battre. Très vite, l'armée est arrivée. Ils surveillaient les villages. La plupart des hommes sont partis. Un jour, ils sont venus et nous ont dit d'évacuer le village. Ils ont rassemblé tout le monde et ils ont brûlé les maisons. La région était devenue zone interdite. Ils nous ont emmenés dans un campement de l'armée, tout près de la base des militaires. On avait tout perdu. Les terres, le troupeau. Ils nous faisaient vivre là, sous des tentes, sans rien. Comme mon mari avait de la famille à Alger, ils ont accepté de nous héberger et on a pu quitter le camp. Je suis arrivée à la Casbah au début de l'année 1956. On vivait chez les oncles de mon mari, dans une maison de la partie basse de la ville. En arrivant depuis le camp, je me suis tout de suite sentie chez moi. On pouvait sortir dans la Casbah, avec les femmes du quartier, on se retrouvait au lavoir et on discutait. Peu après, mon mari m'a annoncé qu'il partait travailler en France, dans une usine à Paris. Il m'a laissée seule avec sa famille. Je ne m'entendais pas avec eux. Avec les filles, on passait des après-midi à chercher la fréquence de la voix de l'Algérie combattante qui était brouillée par l'armée. Yamina disait que c'est les femmes qui faisaient tout à Alger. Elles hébergeaient les Fedaines, c'est elles qui transportaient les bombes à travers les barrages. Parfois, elles me confiaient des valises que je devais cacher chez moi. J'ai caché des tracts, cousu des drapeaux algériens. On admirait les Fedaines. Les femmes comme Jamila Bouhired ou Zohra Drif étaient des exemples pour nous. En janvier, les parachutistes ont débarqué. Ils ont assiégé la ville, on ne pouvait plus circuler. La Casbah était entourée de barbelés. Pour sortir, il fallait passer les barrages des militaires. Ils nous passaient à la poêle à frire pour vérifier si on transportait des armes.
À Alger, la rébellion a perdu un de ses chefs. Une filière avait conduit les forces de l'ordre dans la Casbah, où le numéro 3 de la rue Caton était surveillé depuis plusieurs jours. C'est dans cet immeuble que les soldats devaient forcer Yassef Saadi au fond du repère qu'ils s'étaient ménagés derrière un panneau de mur amovible. Arrêté en compagnie de sa compagne Zohra Drif, Yassef Saadi, maintenant sous bonne garde, dirigeait toute la rébellion de la zone d'Alger. Il rendra compte à la justice de ses activités.
Les Français étaient de plus en plus violents. Les militaires voulaient le retour de Gaulle. Ils l'ont vite obtenu. Le référendum a été organisé. Des camions tournaient pour appeler les gens à aller voter. Ils disaient que tout le monde devait s'exprimer. Autour de moi, personne n'avait jamais voté. Et tout d'un coup, nous, les femmes, on avait droit. Des Françaises venaient dans la Casbah et nous parlaient de l'Algérie française, de l'action de la France pour les femmes. Elles disaient qu'on devait arrêter de porter le voile, que la France allait enfin nous émanciper. Pour moi, c'était trop tard. On ne pouvait plus revenir en arrière. Je n'avais pas de nouvelles de mes frères et de mon père. Mais je savais que s'ils étaient vivants, la lutte continuait. J'ai reçu une lettre de mon mari à la fin de l'année. Il avait trouvé une maison à Paris et il me disait de le rejoindre avec les enfants. Eux, ils étaient contents. Pour moi, c'était le désespoir. Je suis arrivée à Paris en plein hiver. On s'attendait à vivre comme des Français. On est arrivé dans un bidonville, à Gennevilliers. On vivait dans une baraque minable, isolée avec du carton. Quand il pleuvait, la pluie coulait dans la maison. J'avais personne au début. On était très peu de femmes. Mon mari ne voulait pas que je sorte. Je lui en voulais de nous avoir entraînés ici, loin de chez nous. On se parlait presque plus. Avec les enfants, on pleurait tous les soirs. À Gennevilliers, c'était une femme qui récoltait l'argent pour les frères. Malika. J'aidais en cachette. Je gardais des tracts sans que mon mari le sache. Mon mari faisait rien pour son pays. La politique, ça ne l'intéressait pas. Surtout, il ne voulait pas prendre de risques. Un jour, la police l'a embarqué en sortant du travail. Il est revenu le lendemain, tout amouché. Il m'a raconté que les policiers l'avaient jeté à la Seine, lui et son ami. Lui, il savait pas nager. C'est son ami qui l'a sauvé. Il l'avait maltraité, alors que lui, vraiment, il n'avait jamais rien fait. Je l'ai vu pleurer. Ça m'a fait un choc. On a été prévenus de la manifestation au dernier moment. C'était pour protester contre le couvre-feu. J'étais enceinte, mais j'y suis allée quand même. On devait tous partir ensemble depuis Gennevilliers. En arrivant, j'ai tout de suite vu qu'il se passait quelque chose de grave. Les gens couraient dans toutes les directions. Il y avait des blessés, un homme avait la chemise couverte de sang. On nous a crié de partir. Moi, j'ai suivi une voisine chez sa sœur qui vivait à côté. Elle s'est cachée toute la nuit. Aïcha était terrorisée. Le lendemain, en rentrant au bidonville, j'ai pas trouvé mon mari. J'ai parlé avec les voisins, ils m'ont dit que beaucoup n'étaient pas revenus de la manifestation. On est allé au commissariat avec les enfants, chercher des nouvelles. On a pris le bus. À la sortie de Gennevilliers, il y avait un barrage. Ils ont fait sortir tout le monde. Ils ont pris tous les hommes algériens à part. Ils les ont embarqués sans regarder les papiers. Après, on nous a fait remonter et le bus est reparti. J'ai entendu des Français se plaindre. Ils nous font chier, ces ratons. Vivement qu'on en finisse. J'ai rien dit. Au commissariat de Saint-Denis, j'ai demandé à l'agence s'ils avaient mon mari. Je voulais savoir s'il ne m'était pas arrivé quelque chose. Il m'a juste dit « Ne vous inquiétez pas, il va bien. » Il m'avait même pas demandé son nom. Il m'a dit de partir, que je n'avais rien à faire ici. Le 20, j'ai reçu des instructions de Malika. Je devais prévenir les sœurs pour un rassemblement devant la prison de la santé. Une partie des femmes était heureuse de faire quelque chose. Et beaucoup ne pouvaient pas laisser les enfants sans personne. Les pères n'étaient toujours pas revenus. On a pris le métro pour aller manifester. Avec nous, il y avait des Françaises qui portaient des pancartes. Les policiers étaient déjà sur place. On est monté dans les cars. Ils nous ont tout emmenés à Sainte-Anne. Je me souviens d'une Française qui criait beaucoup. Elle a reçu des claques du commissaire. Heureusement, les infirmiers nous ont aidés. Ils ont ouvert une porte et on a pu s'enfuir. Mon mari n'est jamais rentré. Pendant plusieurs semaines, il continuait de retrouver des cadavres dans la Seine. Pas loin de chez nous, ils ont retrouvé une fille de 14 ans, noyée avec son cartable d'écolière. Elle s'appelait Fatima. Après l'indépendance, je suis restée en France pour les enfants. Toute ma famille était morte au maquis. J'avais plus personne en Algérie.
Et donc on vous rappelle que ce qu'on vient de vous diffuser à l'instant, c'est un web-reportage réalisé par Raspou, principalement centré sur le 17 octobre 1961. Vous pouvez le retrouver sur http://raspou.team/1961/home. C'est pas très très facile à retenir, mais grâce à un moteur de recherche, vous trouverez sans problème ce web-reportage.
On le remettra sur le blog... On mettra le lien direct sur le blog.
La source sera sur le blog du Canu Info que vous trouvez assez facilement. Et nous, tout de suite, on passe à la rubrique internationale.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
On entend là, c'est le bruit des insectes. Et en moins de 3 décennies, les populations d'insectes ont probablement chuté de près de 80% en Europe. C'est ce que suggère une étude internationale publiée mercredi 18 octobre par la revue PLOS ONE et relayée ce matin par le journal Le Monde. Cette étude analyse des données de capture d'insectes réalisées depuis 1989 en Allemagne. Elle montre que le déclin des abeilles domestiques, phénomène très connu, n'est que la part émergée d'un problème bien plus vaste.
Ah oui. 2 secondes.
Donc c'est un universitaire qui s'appelle Caspar Allman qui disait « Nos résultats documentent un déclin dramatique des insectes volants de 67%, de 76% en moyenne et jusqu'à 82% au milieu de l'été dans les aires protégées allemandes en seulement 27 ans. Et cela excède considérablement le déclin quantitatif estimé à 58% des vertébrés sauvages depuis 1970.
Selon les chercheurs qui ont réalisé l'étude, le facteur majeur permettant d'expliquer un effondrement aussi rapide est l'intensification des pratiques agricoles qui recourent de plus en plus aux pesticides et aux engrais de synthèse.
Alors, formellement, les mesures publiées ne concernent que l'Allemagne. Mais un autre universitaire, donc Dave Goulson, disait donc que la France ou le Royaume-Uni ont des systèmes agricoles très semblables et qui utilisent les mêmes entrants qu'en Allemagne. On ne peut pas l'affirmer, mais je dirais que, donc le jeu c'est Dave Goulson, je dirais donc qu'il y a une bonne chance pour que l'Allemagne soit représentative d'une situation bien plus large. Si c'est effectivement le cas, alors nous sommes face à une catastrophe écologique imminente.
Cet effondrement rapide de la population d'insectes a un impact de grande magnitude sur l'ensemble des écosystèmes, puisque les insectes forment l'une des socles de la chaîne alimentaire. En France, de telles données n'ont pas fait l'objet d'une publication récente, mais la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvre du Centre National de la Recherche Scientifique, mieux connu sous le nom de CNRS, une zone de recherche signée dans les Deux-Sèvres, dispose d'un site sur lequel un suivi régulier est effectué depuis plus de deux décennies.
Et donc, l'écologue Vincent Bretagnol explique « L'exemple que je donne souvent est celui des carabes de l'espèce Poecilus cupreus. » Le plus abondant des milieux agricoles, en nombre d'individus capturés, il a diminué de 85% en 23 ans.
Alors les chiffres récoltés dans les Deux-Sèvres sont encore plus alarmants que ceux publiés à partir des données allemandes. Bernard Vessière, qui est chercheur à l'INRA, indique que c'est la première fois que l'évolution de la biomasse totale d'insectes est évaluée. C'est un travail solide, cohérent avec ce que nous avons sur certaines espèces, des papillons par exemple, mais le chiffre n'en est pas moins énorme. On m'aurait dit cela il y a 10 ans, je ne l'aurais pas du tout cru. Les auteurs ont ensuite fait un gros travail statistique pour chercher des liens entre la diminution de l'abondance des insectes et différents facteurs comme la température, les sols, la biodiversité végétale sur le site, les changements au paysage environnant. Or, ces facteurs interviennent localement, mais ne peuvent pas expliquer le déclin au cours du temps.
Parfois, c'est même le contraire. En théorie, l'augmentation de la température est par exemple un facteur favorisant l'abondance d'insectes. Et depuis 30 ans, les températures moyennes ont grimpé avec le changement climatique. Mais les insectes n'en disparaissent pas moins. Notre analyse, donc ça c'est Dave Goulson qui détaille ça, notre analyse permet d'écarter certains facteurs comme le changement climatique ou la perte de biodiversité végétale qui sont parfois avancés pour expliquer le déclin des insectes.
Et alors si le déclin des insectes ne s'explique pas par le changement climatique ou la perte de biodiversité, il ne s'explique pas non plus par la responsabilité des pathogènes naturels, hein, comme les virus ou les parasites, puisque cette hypothèse peut être écartée, car tous les insectes sont touchés par le déclin, quelle que soit leur espèce, ce qui ne serait pas le cas, hein, si c'était juste des virus ou des parasites qui toucheraient des espèces spécifiques. Les changements de pratique des agriculteurs forment donc, selon ces chercheurs, l'explication la plus plausible à l'effondrement en cours, d'autant que 94% des aires protégées sur lesquelles l'abondance d'insectes a été mesurée se trouve au milieu de zones de culture. En outre, écrivent les chercheurs, d'autres travaux récents mettent en évidence que l'intensification agricole, dont la disparition des marges, des parcelles et les nouvelles méthodes de protection des cultures, sont associées à un déclin général de la biodiversité, des plantes, des insectes, des oiseaux et des autres espèces.
Parmi les nouvelles méthodes de protection des cultures, le traitement par enrobage des semences grâce au fameux insecticide néonicotinoïde est le principal suspect. Une étude récente conduite par le chercheur suisse Alexandre Aibi a montré, à partir d'un échantillonnage de 200 miels récoltés sur les 5 continents, que des résidus de néonicotinoïde y était omniprésent, parfois 10 fois plus concentré que le seuil à partir duquel des effets négatifs impactent les insectes. De plus, le miel formé à partir du nectar des plantes mellifères est un bon indicateur de l'imprégnation générale de l'environnement.
En fait, l'existence d'effets à grande échelle ne serait donc pas très étonnante. L'estimation du déclin reste, elle, tout à fait frappante. En fait, c'est la traduction chiffrée de ce que tout le monde peut remarquer en prenant sa voiture, conclut Vincent Bretagnol du CNRS. Il y a 20 ans, il fallait s'arrêter toutes les deux heures pour nettoyer son pare-brise tant les impacts d'insectes étaient nombreux. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout nécessaire. Et puis dans ce Canu Info un peu spécial pollution, on va se garder ce son d'insectes, puisqu'en fait on n'aura probablement plus trop l'occasion d'en entendre dans les décennies à venir, pour aborder un autre sujet, la pollution, les insecticides, enfin en tout cas les comportements humains ne tuent pas que des insectes, ils tuent aussi des humains, puisque la pollution est responsable de 9 millions de morts par an. Les études se suivent et les chiffres sont de plus en plus vertigineux. Dans son rapport 2017 sur la qualité de l'air, publié le 11 octobre, l'Agence européenne pour l'environnement estimait que la pollution de l'air était à l'origine de plus de 500 000 décès prématurés, c'est-à-dire avant 65 ans, en Europe par an. Celle publiée par cette même agence le 20 octobre dans la très respectée revue médicale The Lancet porte ce décompte macabre à 6,5 millions à l'échelle de la planète pour la seule année 2015 et un total estimé à 9 millions en ajoutant les morts liées à la pollution de l'eau et des sols, ce qui équivaut à 1,8 million de morts par an, et en milieu professionnel à 0,8 million de personnes par an, 800 000 personnes. 9 millions, ça représente un décès sur 6 dans le monde qui serait lié à la pollution, révèle l'étude, qui, pour bien prendre la mesure de la gravité de la situation, note que c'est 3 fois plus que les morts combinées du sida, de la tuberculose et du paludisme. La plupart, plus de 70% en fait de ces décès, sont attribués à la pollution. En fait, ils sont dus à des maladies non transmissibles. C'est les pathologies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC, les cancers du poumon, les bronchopneumopathies chroniques, abus obstructives, hein, les BPCO, vous en avez peut-être déjà entendu parler, un peu moins que les AVC, je pense. Maladies gastro-intestinales ou encore des infections parasitaires. Hein. Donc en fait, on ne peut pas les transmettre, hein, c'est des cancers, en gros, essentiellement. Si tous les pays sont touchés, ce sont une fois de plus surtout les plus pauvres qui paie le prix fort. Environ 92% des 9 millions de victimes de la pollution se trouvent en fait dans les pays à bas et moyens revenus. Et l'étude précise que dans les pays où l'industrialisation se fait à marche forcée, hein, donc on pense à l'Inde, au Pakistan, à la Chine, au Bangladesh, à Madagascar, au Kenya, etc., la pollution peut être responsable d'un quart de tous les décès, c'est-à-dire absolument majeur dans ces pays très pauvres qui servent d'usine aux pays occidentaux. Enfin, quel que soit le niveau de développement des pays, les effets de la pollution affectent de façon disproportionnée les populations les plus pauvres et marginalisées. Les auteurs pointent ainsi une injustice environnementale dont sont aussi bien victimes la communauté rome parquée dans un camp de réfugiés sur le site contaminé d'une ancienne mine au Kosovo, oui ça arrive, que les habitants d'un quartier défavorisé à New York qui sont exposés eux aux émissions de gaz de plusieurs dépôts de bus. Ce tableau, déjà bien noir, pourrait être encore plus sombre. Les auteurs estiment que leur bilan sous-estime en réalité la réalité en raison de nombreux nouveaux polluants chimiques qui restent à identifier. Ainsi, selon eux, plus de 140 000 nouveaux produits chimiques et pesticides ont été synthétisés depuis 1950 et parmi les 5600 les plus utilisés, moins d'un quart ont subi des tests de toxicité et d'évaluation avant leur mise sur le marché lors de la dernière décennie et seulement dans un nombre limité de pays riches. Vous êtes sur Canu Info, les abeilles meurent à cause des insecticides, les humains meurent à cause de la pollution. Et la pollution sont aussi les humains qui la génèrent. Et il n'y a pas que le trafic automobile ou l'industrie pour polluer, il y a aussi la manière dont on produit de l'énergie.
Et oui, et notamment le fameux gaz de schiste. Et alors en fait, il y a eu une annonce assez récente du gouvernement algérien comme quoi il allait reprendre l'exploitation. Alors, donc j'ai bien dit reprendre, puisque je vais vous rappeler un peu ce qui s'était passé. On avait parlé d'ailleurs à l'époque dans les Canu Info, je vous invite à les réécouter, donc ça date de 2014. Donc il y a eu beaucoup de mouvements en Algérie, notamment dans le sud algérien, concernant justement pour protester contre les premières mises en place pour l'exploration et l'exploitation du gage de schiste. Donc c'était principalement dans la ville d'Insala. Donc c'est un mouvement qui a commencé fin 2014, qui a duré plusieurs mois, et il y avait des actions quasiment tous les jours, sans discontinuité. Donc c'était assez exceptionnel, ça a beaucoup mobilisé les gens. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a cédé à l'époque, il a renoncé à l'exploitation du gaz de schiste, et donc ça, c'était fin 2015. Et l'exploitant principal, qui est mandaté par le gouvernement algérien, qui s'appelle Sonatrach, avait du coup suspendu tous ses travaux dès lui il était les premiers forages étaient à Insala, avait suspendu tous ses travaux dès le début de 2016. Et donc là, quand le Premier ministre a annoncé le 1er octobre que finalement ils allaient reprendre l'exploitation, ça commence un peu à protester en Algérie. Alors on ne sait pas encore si ça va redonner un mouvement de l'ampleur de ce qui s'était passé en 2014. Ça, de toute façon, on vous tiendra au courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi le gouvernement algérien veut revenir sur sa décision de 2014-2015. C'est tout simplement comme d'habitude, c'est la chute du prix du baril. Donc du coup, faut faire des sous. Donc ils se disent, nous on a plein de réserves de gaz de schiste, donc on va aller les exploiter. Donc pour info, l'Algérie fait partie des pays qui possèdent le plus de réserves de gaz de schiste au monde. Seulement pour avoir une exploitation à peu près rentable, il faudrait qu'ils soient capables de forger là tout de suite maintenant 3000 puits à peu près. Donc autant vous dire que ça va faire du grabuge. Et puis il faudrait qu'ils forgent des puits, plus que 3000. En fait, 3000, c'est là pour avoir une première rentabilité, on va dire, et il faudrait qu'ils en arrivent à forer à peu près 10 000. Donc, de quoi ravager complètement toute l'Algérie. Donc, il y a de quoi s'inquiéter, et on comprend pourquoi les Algériens et Algériennes sont inquiets, et eux aussi. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a un nouveau mouvement qui va se lancer en protestation contre la gaz de schiste. Donc ça, on vous tiendra au courant dans les prochains Canu Info.
Une chose dont on vous tient au courant aussi dans le Canu du vendredi assez régulièrement, c'est ce qui se passe au Kurdistan, avec les news du Kurdistan qui nous arrivent en direct. Elles ont fait une petite pause pendant l'été, elles sont de retour, on retourne tout de suite au Kurdistan.
Voici les dernières nouvelles du Kurdistan. Hishar Ozoy, député de Bigol, a alerté cette semaine sur la situation des prisons en Turquie, qui tend encore à s'empirer ces derniers temps. Il dénonce le fait que les gardiens de plusieurs prisons ont été remplacés par des agents des forces spéciales et que les armes lourdes, qui n'avaient pas été utilisées jusque-là en prison, y soient acheminées. Il craint aussi l'exécution de plans de massacre planifiés des prisonniers. Le 23 novembre, 58 prisonniers accusés d'être en lien avec le PKK ont ainsi été transférés de la prison de haute sécurité de Edirne sans aucun avertissement ni explication. Le coprésident du HDP, Selahattin Demirtas, et le député Abdullah Zeydanoğlu étaient gardés dans cette prison dans des conditions d'isolement. La parlementaire Gülse Yıldırım a également pu informer, lors d'un appel autorisé à son mari, des conditions de détention de ses camarades dans la prison de haute sécurité de Kandıra, où elle est détenue. La coprésidente du HDP, Figen Yüksekdağ, la commère de Ahmed, Gültan Kişanak, et la porte-parole du KJA, Ayla Akat, sont toutes trois détenues en cellule d'isolement individuel, sans aucune possibilité de contact avec l'extérieur. Les descentes de police se multiplient dans différentes villes du Kurdistan. Nombreuses sont celles qui conduisent à des arrestations, comme ça a été le cas pour 20 personnalités politiques à Mardin, dont plusieurs personnes de la mairie, et 4 autres à Nusaybin. La police a également fait une descente le 24 novembre de la mairie de Bitlis. Le commaire de la ville est aujourd'hui en garde à vue. C'est aussi le cas du commaire et de 41 personnes dans la ville de Wan. Quelques jours plus tard, après cette descente, la seule école de langue kurde de la ville, ouverte en novembre dernier il y a un an, a été fermée. À Cizre, C'est une membre du groupe des Mères pour la Paix qui est détenue des suites d'un raid de la police dans sa maison. L'enchaînement des arrestations visant spécifiquement les commères des municipalités kurdes n'est pas un hasard, mais le résultat d'une politique planifiée. Après avoir arrêté de nombreux membres d'administration des municipalités kurdes et mis à terre les institutions de femmes, le gouvernement a publié un décret spécifiant que le système de partage des postes de président, de maire ou d'autres mandats était désormais illégal et passible d'une peine de 2 ans de prison. Pour comprendre ce système, il faut voir qu'en 2005, le DPK avait lancé un appel à l'autonomie démocratique, projet politique qui repose sur un système de délégation et de répartition horizontale des pouvoirs. Des suites de cet appel, des conseils de quartier, de ville, de région ont été mis en place. À l'intérieur de chaque conseil, des commissions spécialisées sur certains domaines sont créées, la commission des jeunes, la commission des femmes, etc. Chacun de ces conseils et commissions répond à un système de quotas, les femmes doivent y participer à plus de 40%, et chacun de ces conseils et commissions est co-dirigé par 2 représentants, un homme et une femme. Petit à petit, par une dure répression, le gouvernement turc s'attaque à ce système et démantèle les instances politiques kurdes de confédéralisme démocratique qui ont été mis en place depuis 2005. On parle aussi ici avec beaucoup d'acronymes, donc on va essayer la semaine prochaine de vous faire un point sur ce système de confédéralisme démocratique avec son fonctionnement et ses commissions. Il faut voir que c'est aussi spécifiquement les femmes qui sont visées par les politiques de répression mises en place par le gouvernement. Une femme a par exemple été abattue par un homme tirant à bout portant depuis une voiture civile dans les rues de Hamed cette semaine. Et alors que les secours arrivaient, les forces spéciales ont bloqué les rues adjacentes et ont complètement fermé la zone à quiconque. Une femme a également été brûlée vive dans sa maison par la police et l'armée turque lors d'une descente dans le quartier de Wan. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déclaré que des membres du PKK se cachaient à l'intérieur du bâtiment. Ils ont donc enflammé le bâtiment, puis ils ont empêché cette femme, qui s'appelle Heidi Ataman, d'en sortir. Pourtant, malgré la répression qui les touche, les femmes du groupe parlementaire du HDP continuent d'être vigilantes aux atteintes à leurs droits, et elles ont publié un communiqué qui réaffirme leur détermination à lutter contre le projet de loi du gouvernement turc qui vise à dépénaliser les viols si le violeur épouse sa victime. Elle déclare ainsi « Nous sommes plus que conscientes de ce jeu qui ne vise qu'à légitimer les violeurs et à assombrir la vie des femmes. Depuis longtemps maintenant, nous avons usé de 1000 ruses afin de défaire vos lois, nous intimant d'épouser nos violeurs. Aucun doute que nous allons continuer aujourd'hui. » Et d'autre part, les combattants et les combattantes du HPG continuent leurs opérations. Ils et elles ont annoncé avoir tué 11 soldats turcs dans la région de Hakkari ces derniers jours. Orojelat, donc au Kurdistan, de l'Est, en Iran, la prison, elle sert aussi à bâillonner les voix. Et cette semaine, c'est le réalisateur kurde Kaywan Karimi qui a été condamné à 1 an de prison et à 223 coups de fouet des suites de son film sur l'histoire des graffitis couvrant les murs de Téhéran de la révolution aujourd'hui. Et il faut voir que pour ce film, il en est déjà à sa 3e condamnation.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et donc là, tout de suite maintenant, parce que vous avez très très faim, vous pouvez vous précipiter au 91 rue Montesquieu, donc à l'atelier des canulars, pour un repas japonais végétarien. Et donc c'est en soutien au lieu, à l'atelier. Voilà, c'est, donc je vous conseille d'y aller, c'est très bon.
Et le 91 rue Montesquieu, c'est décidément dans le 7e arrondissement de Lyon, hein, c'est décidément là où tout se passe, puisque vous le savez sans doute, d'un côté vous avez l'atelier des canulars, de l'autre côté la lutine, et à la lutine, qu'est-ce qui se passe mardi 24 octobre? Il y a en fait l'apéro, réunion de rentrée du collectif d'entrée de la rédaction de Rébellion. Donc c'est un collectif qui vise en fait à se mettre à plusieurs pour écrire des informations, pour faire des enquêtes, pour essayer de se dégager de la peur de la feuille blanche et pour se valer toute l'info locale, c'est-à-dire le fait que considérer que tout commence un petit peu localement, qu'il va falloir bosser.